RFI, les 23h à Paris, 22h en temps universel et 1h à Mamoudzou.
24h en France.
Merci d'écouter RFI. Comme chaque soir, à la même heure, on se retrouve pour 30 minutes et 100% d'actualité française.
Alban Le Prince.
Et à la une ce soir, François Bayrou, le Premier ministre, attendu au tournant. C'est demain qu'il doit prononcer son discours de politique générale pour éviter la censure. Va-t-il tendre la main à la gauche qui réclame la suspension de la réforme des retraites? Analyse dans un instant. Nous irons aussi à Mayotte où un mois après le passage du dévastateur cyclone Chido et de Dikeledi, hier, la rentrée scolaire est finalement repoussée. Au sommaire aussi, Olivier Grondeau, français détenu en Iran depuis 2 ans, sort du silence, condamné pour complot contre la République islamique comme 2 autres Français. Il réclame sa libération, témoignage à suivre de sa mère. Et puis de nouvelles accusations visant l'abbé Pierre, 9 dont un viol sur mineur, résultat d'un rapport publié aujourd'hui.
RFI.
J-1, c'est demain que François Bayrou, le Premier ministre français, doit prononcer sa déclaration de politique générale. Jusqu'à la fin, le chef du gouvernement a poursuivi ses consultations avec les partis politiques et en particulier les socialistes qu'il a une nouvelle fois reçu ce soir à Matignon, sans avancée significative sur la réforme des retraites, a estimé il y a quelques minutes un cadre du parti, alors que François Bayrou tente à tout prix d'éviter la censure sans pour autant perdre les alliés des Républicains. Les précisions de Raphaël Delvolvé.
Sans scénario de financement alternatif, ce sera sans la droite républicaine, dit ce matin dans une interview au journal Le Parisien Laurent Wauquiez, le président des députés LR. Cela n'a rien de surprenant. La retraite à 64 ans est dans l'ADN politique de la droite classique, tout comme l'ordre et la stabilité. Ce qui explique également pourquoi il ne menace pas de censure le gouvernement, dont plusieurs ministres sont LR d'ailleurs. Alors que se cache derrière cette expression sans la droite républicaine? En l'état, cela tient davantage de la pression au moment où François Bayrou boucle ses consultations avant de s'exprimer devant les députés. Il consulte d'ailleurs un autre poids lourd LR ce lundi, Gérard Larcher, le président du Sénat. Lui aussi s'oppose à une suspension, voire une abrogation de la réforme, au motif, et c'est encore un marqueur de la droite, de la rigueur budgétaire. Alors que risque François Bayrou? Visiblement pas la censure, mais peut-être de perdre des voix précieuses sur le budget. L'ancienne candidate à la présidentielle, Valérie Pécresse, elle va plus loin, en suggérant ce matin à sa famille politique de quitter le gouvernement si la réforme des retraites était suspendue.
Raphaël Delvolvé, la suspension de cette réforme des retraites par François Bayrou serait un signal, a estimé ce soir Marie-Lise Léon, la numéro 1 de la CFDT, un signal qu'attendent énormément de travailleurs selon elle. Le gouvernement Bayrou, qui a connu aujourd'hui son baptême du feu avec la présentation du projet de loi d'urgence pour Mayotte, son premier texte, il vise à accélérer les règles et les procédures pour reconstruire l'archipel ravagé il y a un mois par le cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts et 5600 blessés. Mayotte, où les cours ne sont pas prêts de reprendre, la rentrée des enseignants a été reportée à cause de la tempête Dikeledi et n'aura pas lieu avant la semaine prochaine pour les profs et plus tard pour les élèves. C'est ce qu'a fait savoir Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, aujourd'hui. Alors que dans les établissements scolaires très endommagés, le personnel tente tant bien que mal de réparer et nettoyer les classes. Le reportage de la correspondante de RFI, Justine Rodier.
Des gouttelettes tombent du plafond.
À la radio, vous n'aurez pas les odeurs, mais le moisi dans la salle est tel que, d'un point de vue hygiénique, ce n'est pas utilisable.
Victor Bacam est le principal d'un collège en petite terre. Il présente son établissement en essayant d'éviter les flaques. Les pompiers sont perchés sur le toit et tentent de colmater les dégâts.
Voilà, nous avons à peu près 40 salles qui sont inutilisables sur 76. Donc presque un peu plus de la moitié des salles qui sont inutilisables actuellement.
La rentrée qui devait avoir lieu dans une semaine est reportée. À Mayotte, ce n'est une surprise pour personne. Il y a un mois, le cyclone Chido a ravagé l'île, rendant inutilisables de nombreux établissements. Et ce week-end, Dikeledi a dévasté un peu plus les infrastructures. Au-delà du bâti, le corps enseignant n'est pas au complet et certains élèves ne sont toujours pas prêts. Ce monsieur travaille auprès d'un garçon en situation de handicap qui l'accompagne en classe.
On a perdu tout le matériel. Là, je suis en train de reconstituer les cahiers pour cet enfant parce qu'il a perdu tous ses cahiers.
Plusieurs élèves font état de syndrome de stress post-traumatique. Pour la population, il n'y avait pas d'autre choix que de reporter la rentrée. Justine Rodier, l'abattoir en petite terre, RFI.
Le torchon brûle entre la France et le Burkina Faso. Emmanuel Macron a insulté tous les Africains. C'est ce qu'a affirmé ce soir le chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré. Réaction après le discours du président français il y a une semaine dans lequel il dénonçait l'ingratitude de certains pays envers la France. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux, a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de vœux. Trois Français sont actuellement détenus en Iran et la France les qualifie d'otages d'État. Ils s'appellent Cécile Colère, Jacques Paris et Olivier Grondeau. La famille de ce dernier a choisi cette semaine de sortir du silence 2 ans après son arrestation à Shiraz dans le sud de l'Iran. Il a depuis été condamné à 5 ans de prison pour complot contre la République islamique, ce que contestent son entourage et les autorités françaises. Sa mère, Thérèse Grondeau, était l'invitée de RFI à la mi-journée.
C'est Olivier qui l'a décidé, d'abord, de ne pas donner son nom. Et ensuite, il a voulu laisser un temps à la diplomatie. Et puis ensuite un temps de réflexion et maintenant le temps des médias. Et donc maintenant il a décidé de donner son nom. Il est fatigué, c'est la détresse maintenant. Il en a assez, épuisé. Il peut sortir de sa cellule et faire une petite promenade. Et il y a une bibliothèque, il peut lire. Et il a la possibilité de téléphoner, de nous téléphoner. Mais ça dure pas très longtemps, mais enfin, on peut échanger.
Pour comprendre comment un Français peut se retrouver détenu en Iran et condamné, qui est Olivier, votre fils? Un grand voyageur, c'est ça?
Oui, c'est un grand voyageur, c'est un poète, un écrivain. Il est loin de tout ce dont on l'accuse. Voilà, c'est pas lui du tout, quoi. On a emprisonné quelqu'un qui n'est coupable de rien du tout.
Thérèse Grondeau, mère d'Olivier Grondeau, retenue en Iran au micro de Nicolas Falaise. L'Église de France se dit horrifiée par l'accumulation des faits. L'abbé Pierre fait l'objet de nouvelles accusations de violences sexuelles, dont un viol sur mineur. Des faits dont auraient été victimes des membres de sa famille, c'est ce que révèle ce lundi un rapport. Les précisions pour RFI de Marie Casadebé.
En juillet 2023, la révélation de 7 témoignages provoque le choc. L'abbé Pierre, l'une des personnalités préférées des Français, est accusé plusieurs années après sa mort d'agression et de harcèlement sexuel. Septembre 2024, 17 autres témoignages sont recueillis par le cabinet EGAE. Parmi eux, les récits d'agressions sur personnes vulnérables, sur mineurs et un fait présumé de viol. Ce troisième rapport détaille donc 9 nouvelles accusations portant à 33 le nombre de faits révélés, notamment le viol d'un garçon mineur à l'époque et les agressions répétées sur une femme de 21 ans en 1972 lors d'une mission humanitaire au Bangladesh. Une membre de la propre famille de l'abbé l'accuse également. Le rapport précise qu'il ne s'agit en aucun cas d'un état des lieux exhaustif des agissements du religieux. Il existe d'autres témoignages, parfois anonymes ou encore incomplets.
Marie Casadebé. De l'argent pour financer la campagne de 2007, il n'en avait pas besoin, c'est ce qu'a assuré Nicolas Sarkozy aujourd'hui au procès du financement libyen présumé de sa campagne. L'ancien président de la République est jugé depuis le 6 janvier aux côtés de 11 autres prévenus. Il a d'ailleurs été interrogé aujourd'hui sur ses liens avec certains d'entre eux comme ses anciens ministres, Claude Guéant et Brice Hortefeux, mais aussi 2 hommes d'affaires soupçonnés d'avoir joué les intermédiaires officieux, Ziad Takieddine et Alexandre Djouri, compte rendu d'audience avec Laura Martel.
À quel moment avez-vous pensé être candidat à la présidentielle de 2007 ? Demande la présidente. Dès mon adolescence, c'était un rêve, faire de la politique au plus haut niveau, me bâtir un destin, se souvient Nicolas Sarkozy. Et quand avez-vous songé au financement de votre campagne ? De la douce nostalgie, le ton de l'ex-président passe immédiatement à l'offensive. Jamais, j'avais le vent en poupe, les soutiens affluaient par milliers, ça n'a jamais été un problème de trouver le financement, martèle-t-il. À la barre, l'homme politique, l'avocat, le justiciable Nicolas Sarkozy se défend avec pugnacité, jonglant avec les registres. Le voilà tantôt humble serviteur de l'État, lorsqu'il raconte les débuts de sa collaboration avec Claude Guéant au ministère de l'Intérieur. J'avais besoin de quelqu'un d'expérimenté parce que je ne l'étais pas. Tantôt historien politique quand il revient en détail sur la guerre des droites pour expliquer ses entretiens avec Alexandre Djouri. Il se fait à nouveau nostalgique à l'évocation de sa rencontre à 21 ans avec Brice Hortefeux et leur amitié scellée après un meeting de Chirac autour d'une glace au drugstore, puis rugissant dès qu'il est question de Ziad Takieddine, ce menteur patenté. Mais que ce soit avec lyrisme, je vous le jure du fond de ma sincérité, ou avec ironie, j'ai été sur écoute pendant des années, c'est même étonnant qu'on n'ait pas plus à me reprocher. C'est surtout son sentiment d'innocence outrée que Nicolas Sarkozy tient à faire entendre.
Laura Martel, il est le plus ancien assigné à résidence de France. Kamel Daoudi, un Algérien condamné pour un projet d'attentat à Paris, saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Après avoir épuisé tous ses recours en France, ce qu'indiquent ses avocats, ce lundi, en 16 ans d'assignation, il a donc dû aller pointer 16 627 fois au commissariat, selon sa défense. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, affirme ce soir avoir discuté avec Emmanuel Macron au sujet d'un éventuel déploiement de contingents militaires étrangers dans le pays. Une idée évoquée plusieurs fois ces derniers mois pour assurer le maintien d'un hypothétique cessez-le-feu. Et pendant ce temps-là, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, était en Pologne pour parler du soutien à l'Ukraine avec d'autres capitales européennes. Au menu des discussions également, la perspective d'importants programmes d'armement. Varsovie se dit intéressée par des matériels français. Franck Alexandre.
Jusqu'à présent, l'armée polonaise s'est toujours tournée en priorité vers les États-Unis pour moderniser son arsenal. Mais les tensions sur le marché de l'armement liées à la guerre en Ukraine ont poussé Varsovie à se tourner vers d'autres pays producteurs, en particulier la Corée du Sud. Aujourd'hui, la Pologne regarde également ce qui se fait plus près de chez elle et lorgne sur des savoir-faire français de pointe, souligne le spécialiste de l'armement Léo Peria-Peigné, chercheur à l'IFRI.
Alors, il y a plusieurs options qui pourraient être levées par les Polonais. D'abord, une option très importante sur des sous-marins du type Scorpène notamment. Il y a aussi une option de satellites de renseignement et d'observation pour renforcer le parc montant de la Pologne. Et surtout, l'option la plus importante qui arrive, ce serait des missiles sol-sol à longue portée basés sur le missile de croisière navale français dans le cadre du programme ELSA qui est mené avec les Polonais, les Allemands, les Italiens et les Français. La France a pas mal d'éléments à vendre qui intéressent ses partenaires.
La Pologne, qui s'est lancée dans une politique de réarmement massif, ambitionne de devenir l'une des premières armées européennes. Elle s'en donne d'ailleurs les moyens en consacrant à sa défense 4,7% de son PIB en 2025.
Franck Alexandre, il est 23h12 à Paris et Porto Novo, 22h12 en temps universel.
24h en France. Alban Le Prince.
L'invité culture du jour vit à Cotonou, où depuis 10 ans, ses dessins au stylo binoir sur des feuilles blanches au format cahier d'écolier rencontrent un succès fou. Le Béninois Makef, de son vrai nom Makoutode Enanian Fulbert, expose en ce moment à Paris, dans la Galerie Valois, ses plus belles œuvres. Il est l'invité d'Isabelle Chenu.
Makef, ce sont une partie d'une série que vous avez commencé il y a presque 10 ans maintenant, une série de dessins au stylo-bille noir sur des pages de cahier d'écolier.
C'est une série que j'ai intitulée « Les insomniaques et quelques nuits nomades » pour parler de mon état d'insomniaque et puis montrer à quoi l'être peut être fragile, très fragile, pas à la matière qui sont les feuilles que j'utilise. Parce que des fois, quand je travaille, j'ai la hargne de vider ce que j'ai sur moi. Et puis des fois, ça fragilise la matière que j'utilise aussi. Et tout ça, ça me permet de parler de ce que je vis, de ce que les gens vivent autour de moi.
Vous avez plus d'une centaine de dessins maintenant.
J'avoisine déjà les 200. Au début, mon objectif, c'était d'aller à 100 et de les présenter tous ensemble comme un mur. Je les avais présentés vraiment à l'Institut français au Bénin. Donc c'était un défi que j'ai relevé. Mais aujourd'hui, je me dis, pourquoi pas aller à 1000 un jour, quoi.
Alors, travailler la nuit, c'est particulier. Ça permet aussi peut-être des créations différentes.
En fait, tard dans la nuit, on est en relation avec la nature. Tout est calme. On est en communication avec les entités qui nous entourent. Je parle du surnaturel des fois. Je vais chercher dans l'invisible pour amener dans le visible. Ça apparaît des fois sous forme d'êtres humains, des fois sous forme d'animaux. Des fois, c'est des êtres qu'on n'a même pas envie de voir. Je produis pour permettre à mes semblables de voir ce qu'eux, ils ne peuvent pas voir.
Est-ce que ça a un lien avec le vaudou?
En fait, chez nous, notre culture est basé sur le vaudou.
Alors, Makeff, il n'y a pas seulement de l'invisible dans ces dessins. Il y a aussi, quelquefois, des scènes de la vie quotidienne même des opinions personnelles qui peuvent être critiques.
L'artiste que je suis un éveilleur de conscience. Ce qu'ils ne peuvent pas dire, ce qui ne peut pas être dit tout haut, moi je le dis, c'est pas mon travail.
Quelquefois, vous rajoutez des mots, des signes sur ces feuilles.
Oui, j'ai découvert moi-même le dessin quand j'étais tout petit, quand j'ai commencé l'école. J'ai vu pour la première fois mon maître dessiner au tableau. Sinon, pour moi, j'avais toujours cru que les images qu'on retrouvait dans les livres de lecture et autres étaient faites par les machines. Je ne savais pas que ce sont des gens qui dessinaient. Donc, je peux le faire aussi. Et j'ai dessiné depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Tout ce travail-là a rapport avec peut-être mon enfance.
Quelquefois, il y a de la critique sociale aussi.
Oui, quelquefois, il y a de la critique sociale. Je parle de la politique, de la religion. Mon travail questionne l'être dans sa fragilité, sa complexité, la condition humaine. Ouais, la condition humaine.
Les œuvres de Makeff qui sont à voir à la Galerie Valois à Paris. Un mois après le passage du dévastateur cyclone Chido qui a fait au moins 39 morts, 5600 blessés à Mayotte, le projet de loi d'urgence pour l'archipel est arrivé aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Sur place, 70% des foyers ont à nouveau du courant, selon le gouvernement, mais dans les faits, la vie reste très difficile. Débrouille et frustration sont les deux mots qui résument le mieux la situation. Raphaël Delvolvé a pu recueillir le sentiment des Mahorais qu'il a rencontré sur place.
Depuis Chido, deux sons résonnent plus que les autres dans Mayotte. Celui de la tôle et des tronçonneuses. Les opérations de déblayage continuent. Sur l'île, aucun endroit ne semble épargné.
Cette fois-ci, ça a vraiment frappé l'île en plein fouet. Vous voyez déjà le dégât.
Aramadi Salim est chauffeur. Il conduit des camions le matin, un taxi l'après-midi à Mamoudzou, la préfecture. Dans ce décor de végétation détruite et de routes jonchées de débris et de déchets, il voit une très légère amélioration.
Là, ça commence à changer parce que, bon, on a fait une semaine dans le noir et sans eau. On s'est débrouillé par-ci, par-là pour trouver de l'eau. Mais là, depuis que l'électricité est revenue, ça va.
S'il a repris son travail, c'est avec beaucoup de contraintes.
Ah oui, c'est pas grave. Rien que pour avoir le carburant, il faut faire la queue juste comme pas possible.
Ce semblant de retour à la normale n'existe qu'à Mamoudzou. Au nord de l'île, touché par l'œil du cyclone, les choses sont bien plus compliquées.
Le bateau, c'est mon outil de travail. Donc moi, si j'ai pas de bateau, je peux pas travailler, malheureusement.
Devant une baie où la plupart des bateaux sont retournés, ce pêcheur de la ville d'Amjago se sent abandonné.
On est un tout petit peu exclu de la zone Mamoudzou, même au niveau des informations et tout, on connaît pas.
L'information, sans doute ce qu'il y a de plus précieux après l'eau et la nourriture à Mayotte. Les contacts avec les autorités et les assurances demeurent par endroits impossibles et les doutes se renforcent.
Pourquoi ils cachent la vérité? Là, les Maoris que vous voyez là, ici, on n'a pas l'électricité. La moitié de la population de Amjago n'a pas l'électricité.
Faoulati est mère de famille. Dans sa tenue traditionnelle, elle laisse exploser sa colère.
C'est inhumain. Il y a des aides qui sont arrivées. Ces aides-là, on ne les voit pas ici au nord. Tout est figé sur les bidonvilles. Et tout le monde sait qui sont ces gens qui vivent dans les bidonvilles. Ce sont des gens qui sont entrés ici illégalement. Et nous, on compte pour rien, non?
Les bidonvilles, appelés ici Banga, symbole d'un autre problème de Mayotte, l'immigration clandestine venue en grande partie des Comores. Le sentiment de surpeuplement des quelques 374 km² du territoire et de saturation des services publics s'est renforcé après le cyclone dans les zones les plus reculées. Maria Thibou habite le sud de l'île.
C'est un gros problème qu'il y a à Mayotte en ce moment. Quand on regarde, tous les bangas sont déjà montés. C'est le moment de régler tout ça.
Lors de sa venue il y a 15 jours, le Premier ministre François Bayrou a promis, outre de s'attaquer aux problèmes migratoires, de reconstruire Mayotte en 2 ans.
Raphaël Delvolvé, les 23h19 à Paris, 1h19 à Mamoudzou.
Le journal des Outre-mer.
Et il est présenté ce soir par Alex Léveillé.
Madame, monsieur, bonsoir. Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, lève l'alerte rouge sur l'île. Les habitants sont autorisés à circuler, les activités vont reprendre progressivement. François-Xavier Bieuville.
Nous avons encore beaucoup de vent, beaucoup de pluie à venir, puisque nous avons un événement de mousson, de cache-quasi, qui va arriver dans les prochaines heures sur l'archipel. Et par conséquent, toutes ces mesures me conduisent avec un territoire qui est particulièrement fragilisé, de maintenir l'alerte rouge jusqu'à 15h aujourd'hui et de passer en alerte orange, pluie intense et orage cet après-midi. Alors sur le bilan humain, c'est un bilan finalement qui est stabilisé. Nous n'avons eu aucune victime. 73 personnes se sont présentées au CHM et dans les trois dispensaires. Et nous avons dénombré que 5 personnes qui devaient être en relation directe avec l'événement climatique. Donc le bilan est très très faible.
François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte, était au micro d'Anastasia Laguera. Une fille et un fils endeuillés par le décès de leur mère à Bordeaux depuis le 2 janvier attendent toujours le retour de la dépouille de leur mère à La Réunion. Adjaya Oharo de Réunion la Première.
C'est une attente abominable en fait.
Plus de 10 jours après le décès de leur mère, Julie et Florian n'en peuvent plus d'attendre. Les services de rapatriement leur ont annoncé que le corps de leur mère devrait arriver à La Réunion le 18 janvier.
Et la première réponse au niveau du service de rapatriement, c'était « effectivement, c'est la compagnie qui bloque, il n'y a pas de vol avant à considérer ». Un délai de 10 jours de rapatriement, alors qu'on a des vols long courrier 2 fois par jour qui arrivent à Saint-Denis de La Réunion.
La fratrie est aussi choquée par le manque de dignité corporelle.
Pour bien avoir à l'idée que ça passe par le service d'acheminement des colis,
et effectivement, le corps est considéré comme un colis.
Et pour eux, leur deuil est empêché par des raisons financières.
Au niveau des assurances, tout va être fait, effectivement, pour diminuer les coûts. Sauf que là, effectivement, on parle d'un corps. Les propositions qui étaient faites, bien évidemment, en accord avec la plus faible enveloppe qui pouvait être proposée par l'assurance. D'où le 18.
La famille Mercier n'a toujours pas pu commencer son deuil.
Adjaya Ouaro de Réunion la Première. Direction la Guadeloupe et cette position dans le débat sur l'évolution statutaire. Le président de région, Harry Chalus, se dit favorable à l'article 74 de la Constitution dans une tribune publiée ce matin. Olivier Lancien, de Guadeloupe la Première.
Nous devrions envisager l'article 74 de la Constitution. Il est essentiel de poser cette réalité clairement et sans complexe. Ce sont les mots d'Harry Chalus. Le président de région prend de court tous les observateurs politiques ce matin. Il enfonce le clou. Pas de demi-mesure ni de discours ambigu. Mais cela demande de la pédagogie. Il faut un document clair pour que l'archipel puisse définir sa place dans la République française, mais aussi dans le monde. Une perspective qui passe par une citoyenneté guadeloupéenne avec droit du sol, le droit du sang et une forme de naturalisation. Une citoyenneté guadeloupéenne à ne pas confondre avec la nationalité. Côté institutionnel, le président de région envisage 2 organes. Une assemblée territoriale chargée de la production de la loi, de son application, ainsi que de la gestion des affaires courantes. Et un conseil exécutif à ses côtés qui déterminera et conduira les politiques de l'archipel. Mais rien ne sera décidé sans le peuple guadeloupéen.
Olivier Lancien de Guadeloupe la Première. Et puis le carnaval 2025 a débuté en Guyane. Dimanche, les premières cavalcades dans les rues ont eu lieu un peu partout sur le territoire. Olivier Damon, lui, s'est rendu à Cayenne.
Ils sont presque tous là ce dimanche pour lancer les cavalcades de Cayenne. Sous souris, le chinois, les balayeuses, les jeffarines et même les touloulous des universités. Un patrimoine à préserver pour l'Office du Carnaval Pays Guyane.
C'est montrer que les personnages d'antan ont leur importance dans notre carnaval.
Christine Jean-Baptiste, chargée de communication de l'OCPG. La spontanéité, c'est ce que défend le New Cocoy Band depuis sa création il y a 7 ans. Philippe Daudet, le président.
Là, il y a des gens qui m'ont appelé au dernier moment, ils ont voulu le faire. Bon. Ils mettent un maquillage et puis voilà.
Chez vous, c'est un peu la spontanéité.
Voilà.
Aux côtés de ce qu'on appelle les Touloulous Sales, les grandes formations de notre carnaval de rue comme Mayuri Tioneg, Ijakata ou encore Feuille d'Argent en fait honneur à leur statut dès ce premier dimanche. Un mélange de tradition et de modernité apprécié par le public. Rendez-vous désormais tous les dimanches jusqu'au 5 mars.
Olivier Damon de Guyane la Première et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à tous.
Bonne soirée Alex.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Moins de rides, des lèvres plus charnues, des traits fins. Il n'est pas rare d'avoir envie d'avoir recours à la médecine esthétique. Injections, laser, pour éviter les ratés, aller voir un vrai professionnel est essentiel. Pour en parler, Caroline Paré reçoit le docteur Adi Hakim.
Docteur Adi Hakim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en dermatologie esthétique laser et cosmétologie à Dakar au Sénégal. Quand on parle de soins esthétiques, il peut y avoir de la déception, des conséquences indésirables des soins, mais aussi des risques liés aux gestes prodigués par des personnes sans formation. De votre côté, quelles sont les complications des soins esthétiques que vous prenez en charge ?
Alors, on prend en charge toutes les complications des soins esthétiques parce qu'on en voit de plus en plus. Les soins esthétiques sont faits, comme vous avez dit, par des gens qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas les formations. Or, pour pouvoir faire des injections ou du laser, il faut au moins être médecin généraliste et encore mieux dermatologue et avoir fait au moins un diplôme universitaire ou interuniversitaire de laser, cosmétologie et injectable.
Ça veut dire quand on dit complications de ce type de soins sans formation, ça ressemble à quoi ces complications, voire ces séquelles ?
Alors, je vais vous donner deux complications que j'ai vues ce matin. Une femme qui est allée voir une esthéticienne, pas une médecin, et qui s'est faite injecter au niveau des lèvres de l'acide hyaluronique et qui se retrouve avec des lèvres gonflées et avec ce qu'on appelle un granulome, c'est-à-dire des grosses boules. Une autre complication, une dame qui est allée voir une autre esthéticienne pour se faire épiler les jambes par du pseudo-laser, de la lumière pulsée, qui n'est pas adaptée à la peau noire et qui a eu des brûlures du premier degré au niveau des jambes. Et les jambes ressemblent à la peau d'un zèbre, c'est-à-dire une zone claire, une zone foncée, une zone claire, une zone foncée. Ce sont deux petites complications. On pourrait rajouter aussi les complications banales des faux ongles ou des faux cils.
Donc, on a bien compris, s'adresser aux professionnels, aux soignants bien formés. Merci, docteur Adi Hakim. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, mois sans alcool, Dry January, prendre conscience, freiner sa consommation d'alcool. Comment ce défi de janvier est-il perçu en 2025? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10, temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Le rendez-vous est pris, Caroline. C'est bientôt la fin de 24 heures en France. Merci de nous avoir suivis. Merci à François Ballarin, rédacteur en chef de cette édition. Fabrice Violet à la réalisation. Dans 3 minutes, le retour de l'actualité africaine avec Sylvie Berruet. Et avant, la bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones commence la semaine sur un gain de 359 points qui le reconduit à 42 297. Mais le Nasdaq, lui, chute de 74 points pour revenir à 19 088. Les marchés américains sont suspendus, d'une part, à la publication demain de l'indice des prix à la production et surtout mercredi à celle de l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre. Les marchés espèrent que le noyau des prix, celui qui ne tient pas compte des prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires, révélera une augmentation de 0,2% seulement, ce qui marquerait un ralentissement bienvenu par rapport au 0,3% de hausse du mois de novembre. Tout signe d'accélération de l'inflation aux États-Unis serait très mal reçu, car il inciterait la Réserve fédérale à suspendre durablement ses baisses de taux d'intérêt. D'autre part, la saison des résultats trimestriels du quatrième trimestre va commencer mercredi. Plusieurs géants de la finance vont ouvrir le bal. Les banques JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo et Citigroup en particulier. Le marché pétrolier poursuit de son côté sa forte hausse de la semaine dernière. Les traders évaluent l'impact sur les achats de pétrole par la Chine et par l'Inde des nouvelles sanctions prises contre les exportations de pétrole russe. Le cours du baril américain de brut grimpe de près de 3% et finit à près de 79 dollars. Le billet vert continue de narguer l'euro au vu des signes de solidité de la conjoncture aux États-Unis face au marasme en Europe. La devise européenne tombe à 1,0217, son plus bas depuis 2022. Le Dow Jones avance tout de même de 0,9%, mais le Nasdaq cède 0,4%.
RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Gabon, alors que les députés examinent en ce moment le nouveau code électoral, une partie de l'opposition dénonce l'opacité de la réforme et exige la non-participation des militaires aux élections. La fin de la transition sera-t-elle tendue ? On en parle.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Elle transforme des tombereaux d'insultes en spectacle. Elle fait du beau avec du laid, la haine grossophobe et homophobe. Dans le spectacle, Surveillée et punie, la chanteuse Safia Nolin nous confronte à un des maux du temps, le harcèlement en ligne.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.